Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
We'd like to introduce the first group to you. First, let's bring him on with the great big hand. Charlie Parker. Charlie Parker and the All-Stars.
Nous sommes à New York le 24 décembre 1949. Ce jour-là, le quintet du saxophoniste Charlie Parker se produit à Carnegie Hall et la prestation de ses cinq musiciens émérites est relayée sur les ondes de Voice of America. La virtuosité du soliste est indéniable et confirme qu'une révolution musicale a lieu. Jusqu'alors, le jazz était une musique dansante qui caressait les oreilles des amateurs de swing. L'irruption d'une nouvelle génération d'instrumentistes fougueux, nommés Thelonious Monk, Miles Davis, Dizzy Gillespie et Charlie Parker, va bousculer le paysage musical afro-américain de l'époque et faire entrer ces nouveaux venus dans l'épopée des musiques noires. Comme vous l'entendez, la haute technicité des musiciens est époustouflante et inédite dans l'univers des musiques populaires américaines des années 40. Le bebop vient de naître et Charlie Parker en est l'un des plus vibrants représentants. Mais avant de parvenir à cette perfection, il y eut des mois et des mois de pratique intensive. Remontons encore plus loin dans le temps et retrouvons-nous en août 1920. Petit Charlie Parker voit le jour le 29 août 1920, il y a 100 ans, voilà le type de musique que l'Amérique des années folles approuve et encense. Un jazz inoffensif sur lequel on se déhanche le samedi soir dans les bals de la bourgeoisie blanche au cœur des grandes villes du nord des États-Unis. Il faudra l'audace et le courage de jeunes musiciens noirs effrontés pour que la bande-son de l'époque devienne plus rugueuse et authentique, le reflet véritable de la société américaine inégalitaire d'alors. À Kansas City, où Charlie Parker grandit, les big bands de passage rythment les règlements de compte, les trafics de drogue et d'alcool et les soirées des prostituées. La plus grande ville du Missouri est alors peu fréquentable et c'est dans ce milieu interlope que Charlie Parker doit apprendre à se frayer un chemin. Alain Gerber, auteur de nombreux ouvrages consacrés aux grandes figures du jazz au XXe siècle, nous dessine les contours de cette cité du Midwest américain.
Kansas City devient la vraie capitale du crime. C'est à Chicago qu'on donne les coups de mitraillette, mais c'est à Kansas City que se traite presque sans bruit, en tout cas avec beaucoup moins de sang qu'à Chicago, les vraies affaires. Et l'on peut dire dans une certaine mesure Kansas City a été le laboratoire de Las Vegas, quoi, c'est-à-dire d'une ville entièrement créée par le syndicat du crime. Les gangsters favorisant l'éclosion des lieux de plaisir, comme on n'imaginait pas un lieu de plaisir sans musique live, dirait-on aujourd'hui, bah évidemment ça a fait que tous les musiciens qui, à cause de la crise, n'avaient plus de travail ailleurs, ont rappliqué du côté de Kansas City. Et du coup, comme ils étaient tous là, cette ville a été le berceau d'un renouveau du jazz. Et ça, ça s'est très très peu dit. Parce que l'histoire du jazz, bizarrement, on l'écrit de façon simple, comme une remontée du Mississippi à partir de la Nouvelle-Orléans, puis... lorsque le Mississippi fait un coude, on continue tout droit et on va à Chicago. Et puis, de Chicago, l'arbre envoie une branche à l'est vers New York, une branche à l'ouest vers Los Angeles. Bon, c'est très très simple, ça n'est pas totalement faux. Mais on oublie là-dedans que le vrai centre, la vraie matrice du jazz dans les années 30, pendant 5-6 ans, peut-être moins que ça, elle s'est trouvée essentiellement à Kansas City parce que l'homme qui représentait ce qu'il y avait de plus pointu en matière d'avant-garde et l'homme qui allait bientôt incarner l'avant-garde à venir, ces deux types se trouvaient ensemble à Kansas City, l'un étant Lester Young et l'autre étant Charlie Parker, avec lequel nous n'en avons toujours pas fini.
Louder and funnier. Play that thing. Louder and funnier.
Vous écoutez actuellement l'un des tout premiers enregistrements auxquels participa Charlie Parker en 1940, il a alors 20 ans, et fait partie de l'orchestre du pianiste Jay McCann. Déjà, son impétuosité est perceptible. Il faut dire qu'il avait largement répété ce titre, Honeysuckle Rose, avant d'entrer en studio. Alain Gerber.
On ne sait pas exactement pourquoi il a choisi Honeysuckle Rose, parce que c'était un des tubes de l'époque, ça très très certainement, parce que tout le monde le jouait autour de lui, et puis peut-être parce que ça venait plus facilement sous les doigts. Hein. Par la suite, s'il s'est intéressé à Cherokee, qui est un morceau d'un compositeur chef d'orchestre anglais, Ray Noble, mais qui avait eu un certain succès aux États-Unis et qui d'ailleurs n'a pas composé que ce tube-là. S'il s'est intéressé à ce morceau, c'est en raison de son substrat harmonique et de ce qu'on pouvait en tirer. Parce que Charlie Parker, qui n'avait strictement rien compris à cet aspect du jazz, même arrivé à 15 ans, il comprenait toujours pas. En revanche, quand il a maîtrisé ça, il l'a maîtrisé plus que personne. Il était de ces hommes qui, comme disent les jazzmen les uns des autres, entendent loin. Entendre loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à partir d'harmonies données, qui sont celles qui figurent sur la partition, quelles sont les harmonies décrochées de celles-là que les premières sous-entendent? C'est-à-dire, jusqu'où peut-on aller trop loin? Jusqu'où peut-on ne pas jouer dans les harmonies sans jouer faux? Et il est celui qui a été, à coup sûr, le plus loin de son époque. Hein, et c'est pourquoi ça a marqué une véritable césure. Quelqu'un avait sauvé le jazz à la fin des années 20 en l'empêchant de sombrer dans une sorte de joyeuse cacophonie. Armstrong l'a sauvé de ça. Et puis, Charlie Parker l'a sauvé de n'être finalement qu'une forme un peu plus alerte et un peu plus inventive de la variété.
On a tout dit de Charlie Parker, personnage excessif, génie absolu, improvisateur hors pair, mais certains de ses contemporains tempéraient tous ces qualificatifs, ayant connu le musicien balbutiant des débuts, ce que corrobore Alain Gerbert.
Charlie Parker est un sous-doué d'exception, tout à fait extraordinaire, un sous-doué presque miraculeux. Dans une ville où il n'y a que des musiciens remarquables, voilà un type qui ne comprend pas, alors qu'il s'y attache pesamment, le béaba de la chose. Je suis tombé, il y a quelques semaines seulement, sur un entretien que je ne connaissais pas, de Charlie Parker en compagnie d'un autre saxophoniste alto, qui est Paul Desmond. Une interview radiophonique. Et Paul Desmond essayait de comprendre le génie de Parker et lui disait « Et alors, la pratique, est-ce que ça a compté pour toi ?» Et Charlie Parker disait « Oh, mais je pense bien, pendant une période de ma vie, il y a eu 3 ou 4 ans où je n'ai pas travaillé mon instrument moins de 18 heures par jour. » Bon, enlevons 9 heures pour raison d'honneur radiophonique, il en reste 9, ce qui est absolument colossal. C'est énorme de travailler un instrument 9 heures. Pourquoi ? Parce que si vous voulez bien travailler, il faut penser que votre travail doit vous amener à des résultats concrets. Charlie Parker n'attend pas de résultats, il attend une révélation. Laquelle ? Il attend que lui apparaisse, comme la Vierge à Bernadette Soubirou, le génie de Charlie Parker, qui lui a été promis, qui lui a été promis par maman, et ça, ça compte dans une famille où il n'y a pas de père. C'est donc un génie de droit divin, et qui plus est, de droit maternel, et il attend simplement qu'il se manifeste. Alors, vous me direz, mais vous êtes en pleine contradiction, mon pauvre ami, parce que s'il croit si fort qu'il va devenir Napoléon, pourquoi essaie-t-il de le devenir ? Pas la peine, puisqu'il le sera. Mais si, vais-je vous répondre, parce que c'est un événement tellement extraordinaire de devenir Napoléon qu'il veut être aux premières loges. Et surtout, Charlie Parker n'est pas quelqu'un qui attend le Messie en se tournant les pouces. Le Messie, il essaie de l'attirer à lui. Donc il travaille pour que ça vienne. Et évidemment, ça ne vient absolument jamais. Il a cru qu'il y avait dans la musique quelque chose de mystérieux qui lui serait un beau jour révélé par le Saint-Esprit.
L'apprentissage laborieux de Charlie Parker s'est vite transformé en une obsession de la perfection. Nul ne peut contester la place qu'il occupe aujourd'hui dans le panthéon du jazz. Disparu le 12 mars 1955, à seulement 34 ans, il fut une comète étincelante qui a accéléré l'histoire des musiques afro-américaines en l'espace de 15 ans. Alain Gerbert.
Nous sommes témoins du fonctionnement d'un génie. Et sous le génie, que trouve-t-on ? Les rouages d'un type qui n'aurait jamais rien dû réussir à faire. Il pense avoir, depuis toujours et à jamais, ce que tous les autres cherchent sans le trouver, une sorte de Saint Graal, qui est le génie unique de Charlie Parker. Et ça, puisqu'il l'a, donc pas la peine d'essayer de l'avoir. Or, précisément, il va se rendre compte que ça, c'est ce qu'on n'a jamais. Et je crois que ce qui fait le génie de Parker, c'est qu'il s'en est rendu compte plus que n'importe qui. Il est resté dans l'état d'esprit que son Graal, il fallait toujours aller le chercher plus loin et encore plus loin. Il a exigé de lui des choses qu'il ne pouvait pas obtenir. Charlie Parker voulait que son génie soit toujours en avance, non seulement sur ce qu'il faisait, mais sur ce qu'il ferait. Bon, c'est un pari totalement impossible. Et le jour où il a compris qu'il n'y arriverait jamais, il a cru que Charlie Parker n'existait plus et Charlie Parker a cessé d'exister.
Thank you.
100 ans après sa naissance, le nom de Charlie Parker continue de susciter l'admiration de ses disciples et héritiers. Écoutez ces quelques témoignages recueillis au fil des années, et d'abord celui du saxophoniste Michael Brecker, disparu en 2007, dont le jeu s'inspirait énormément de son illustre aîné.
I hear Charlie Parker every day when I'm home.
J'écoute Charlie Parker tous les jours. Il existe une radio aux États-Unis qui ne joue que Charlie Parker. Et chaque fois, ma réaction est la même. Bon sang! Je suis toujours stupéfait par ce niveau d'excellence. Dernièrement, j'ai découvert un titre de 1943 qui jouait au ténor. Ça m'a littéralement scié sur place. Il est évident que je ne pourrais jamais atteindre une telle virtuosité, mais bon, cela ne m'empêche pas de prendre plaisir à ce que je fais. Je ne vais pas tout abandonner pour autant. Bien au contraire, cela me pousse à aller de l'avant. Cela m'inspire énormément. Quand vous entendez des musiciens excellents, cela attise le processus créatif. On cherche à faire plus et mieux, ce qui explique d'ailleurs le plaisir que je prends à jouer avec des gens meilleurs que moi. Je choisis les membres de mon groupe en fonction de cela. Cela me permet d'avancer.
Inspiring. It keeps me moving.
Aucun doute, le saxophoniste Michael Brecker avait bien écouté son héros pour exceller à son tour, sur scène ou en studio. Certes, beaucoup de compositions immortalisées par Charlie Parker ont résisté à l'érosion du temps, mais certains arrangements, notamment avec des orchestres à cordes, se sont flétris avec les années. Les puristes du jazz ont souvent boudé ces ornementations sirupeuses qui, à leurs oreilles, altéraient l'essence même du son Charlie Parker. Le regretté percussionniste Ray Barretto n'était pas de cet avis.
Charlie Parker with strings, many people felt that.
Pour beaucoup, Charlie Parker accompagné de cordes était une idée trop commerciale. Il ne s'agissait pas d'un jazz authentique. Et pourtant, Charlie Parker était capable de jouer une mélodie sans solo improvisé et faire apparaître une richesse musicale bien plus dense qu'une démonstration de virtuosité. L'esprit jazz qui émane de son sax était unique. Écoutez Just Friends, c'est l'un des plus beaux chorus de l'histoire du jazz.
It's one of the great improvisational choruses in the history of contemporary jazz. Thank you.
Il est vrai que les dégoulinades de violon sur les œuvres de Charlie Parker peuvent paraître un peu désuètes, notamment lorsque l'on sait ce que ce génial saxophoniste était capable de produire. Par exemple, ceci. Ces quelques 49 secondes de solo ont révolutionné le petit monde du jazz le 28 mars 1946. On dit même que Miles Davis n'osa pas reprendre le flambeau après cette démonstration de virtuosité parfaitement maîtrisée. Ce titre, devenu un classique, s'appelle « Night in Tunisia ». Il fut composé par le trompettiste Dizzy Gillespie en 1942. La version la plus connue est donc celle avec le fameux solo de sax de Charlie Parker. L'un de ses homologues, le saxophoniste Benny Golson, se souvient parfaitement du jour où il a entendu cette œuvre pour la première fois.
The name was not A Night in Tunisia. The original name was Interlude.
Le nom de cette composition n'était pas à l'origine Night in Tunisia, mais Interlude. Dizzy Gillespie a changé le titre un peu plus tard, mais l'intérêt de cette œuvre, c'est son originalité. Nous n'avions jamais entendu un truc pareil. Nous assistions, John Coltrane et moi-même, à un concert de Dizzy Gillespie et Charlie Parker à Philadelphie. Il y avait une humeur latin jazz qui ne nous emballait pas plus que ça. Et puis, ils ont joué ce titre, Interlude, devenu Night in Tunisia. Charlie Parker a entamé un solo invraisemblable, deux fois plus long que d'habitude. Quand j'ai entendu ça, j'ai failli tomber à la renverse. J'ai hurlé de bonheur, comme le faisaient les fans des Beatles. Après le concert, nous avons tout fait pour obtenir un autographe de Charlie Parker. John Coltrane et moi avons décidé de pister Charlie Parker dans la ville, toute la journée. Nous savions qu'il jouait à nouveau le soir même dans un club de jazz. Nous nous sommes donc installés sur l'artère principale de la ville et nous avons attendu. Quand nous l'avons vu dans la rue, nous sommes allés à sa rencontre. John à sa gauche, moi à sa droite. Et je lui ai dit « Je peux porter votre saxophone, monsieur Parker ?» Nous étions tout jeunes. J'avais 16 ans et John Coltrane 18. Charlie Parker a accepté la proposition et je nous revois tous les deux aux côtés de la légende. J'étais le plus bavard et je voulais savoir comment il faisait pour jouer ainsi. J'ai donc commencé à le mitrailler de questions, des questions stupides. Quel type de saxophone utilisez-vous? Quelle est la marque? Quel est le numéro de série? Etc, etc. Arrivé dans le club, il a repris son saxophone et nous a plantés là, car nous étions trop jeunes pour entrer dans ce type d'établissement. Ces musiciens l'attendaient, Red Garland, Nelson Boyd, Philly Joe Jones. Moi, je devais rentrer à la maison car j'avais école le lendemain. Mais quoi qu'auraient pu dire mes parents, j'avais décidé de rester. Le concert a commencé à 21h et s'est achevé à 2h du matin. John et moi avons passé cette soirée à l'extérieur du club en écoutant la musique de Charlie Parker à travers la porte d'entrée. Finalement, en pleine nuit, nous avons décidé de rentrer chez nous. Nous avons traversé la ville à pied et sur le chemin du retour, nous avons commencé à rêver, à devenir de grands musiciens, comme notre idole, Charlie Parker. Pendant deux semaines, tous les jours, John passait à la maison pour parler de ce concert et répéter avec moi. Et puis subitement, John a disparu. Je ne l'ai pas vu pendant une bonne semaine. Un soir, le téléphone sonne. C'est mon camarade John Coltrane qui m'appelle et il me dit « Benny, as-tu essayé de jouer la musique de Charlie Parker ?» J'ai répondu « Oui ». « Et est-ce que tu as réussi à reproduire sa sonorité ?» J'ai répondu « Non, moi non plus », a-t-il ajouté. Cela faisait une semaine qu'il s'acharnait sur son saxophone pour essayer de jouer comme Charlie Parker. Évidemment, ça demandait beaucoup plus de pratique. On a longtemps évoqué cet épisode ensemble et on en rigolait souvent.
We thought if we get the mouthpiece in the reed, we'd sound like Charlie Parker. We laughed about those things later.
La ferveur qui accompagnait les prestations de Charlie Parker, notamment lorsqu'il se produisait avec son ami Dizzy Gillespie, était exceptionnelle. Ces deux immenses instrumentistes étaient des frères. Et lorsque nous avions eu le privilège de croiser la route de Dizzy Gillespie au tournant des années 90, lors d'un festival parisien, il ne se faisait pas prier pour évoquer son ami disparu.
The best thing I remember, Charlie Parker.
Mon meilleur souvenir, Charlie Parker.
That's the number one.
C'est le numéro un.
So we were together sometimes.
Il m'est souvent arrivé de jouer avec lui. Il fut une comète dans le jazz. Et puis, il jouait le blues comme personne. Après ces mots pleins de nostalgie, Dizzy Gillespie s'éclipsa dans les coulisses en jouant quelques notes à la mémoire de Charlie Parker. Il y a 100 ans, naissait une icône de l'épopée des musiques noires. Un siècle plus tard, son humeur sonore résonne toujours à nos oreilles. Parker's Mood, Charlie Parker, le 18 septembre 1948 à New York, qui referme ainsi notre série estivale consacrée aux géants du jazz afro-américain. La semaine prochaine, nous prolongerons indirectement cette collection de portraits puisque nous célébrerons Sonny Rollins, qui naquit le 7 septembre 1930, il y a donc 90 ans. Cela valait bien une épopée hommage. Merci à Nathalie Laporte pour ses solos de saxophone en régie finale. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants. Le journal.